Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Aujourd'hui, nous recevons notre évêque, Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne-Escaré au Laurent. Bonjour, Monseigneur.
Bonjour.
Bonjour, Violaine Ricourt-Dumas.
Bonjour, Alexandre. Et
bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence Lourdes-Pyrénées et de Radio La Pourdi-Iratia. Alors, Monseigneur Ayé, nous enregistrons cette émission le 11 décembre. C'est le jour où va être enterré le maire de Saint-Jean-de-Luz. Et vous avez tenu à publier un communiqué à cette occasion. Nous n'oublions pas non plus qu'il y a eu deux autres décès de maire en Pays Basque. Le décès de Michel Dendarrieta aux de Pierre Suesquin en Soul à Viodos à Bains-de-Bas. Alors pourquoi se communiquer pour Péoco du Har, Monseigneur Ayé?
Seulement d'abord parce que j'ai eu un contact un peu plus étroit avec lui, un maire qui m'a toujours très bien accueilli, avec qui j'entretenais des relations tout à fait cordiales. Et puis c'est vrai que c'est une personnalité importante du Pays Basque qui vient de disparaître dans des conditions quand même assez tragiques. Et donc voilà, une figure emblématique du Pays Basque, qui était en plus non seulement le maire de la cité des Corsaires, qui avait beaucoup travaillé avec Michel Alliot-Marie, dont il a été l'adjoint pendant un temps, et qui en plus était le premier vice-président de la communauté d'agglo du Pays Basque.
Monseigneur Ayé, ce week-end, une manifestation a eu lieu à Paris. C'était donc environ 10 000 Basques qui sont montés à Paris pour demander le rapprochement des prisonniers. Est-ce que vous avez un mot à dire à ce sujet, à ces artisans de paix au Pays Basque?
Oui, bien sûr. C'est évident que je crois qu'il y a deux choses. La première chose, c'est vrai que ces prisonniers, pour beaucoup, ont été quand même en lien avec cette organisation terroriste qui est l'ETA, même si aujourd'hui cette organisation est tout à fait démantelée et qu'elle a elle-même déposé les armes, ce qui est une avancée dans le processus de paix et qui est donc une heureuse nouvelle. Donc on peut comprendre pourquoi ces prisonniers dits terroristes aient été éloignés dans un premier temps selon les réglementations en usage dans le monde pénitentiaire, tant en France qu'en Espagne. Ceci dit, c'est vrai que le temps a passé et qu'on imagine bien qu'il n'y aurait pas tellement aujourd'hui de processus d'évasion à craindre en les rapprochant et de manière à ce que les familles maintenant puissent en effet plus aisément rejoindre leurs prisonniers. Donc voilà, je bien sûr, comme vous le savez, je reste sur ma position, je ne peux pas prendre part à une organisation de type politique, hein, et c'est tout à fait le droit et sans doute le devoir des politiques de peser de tout leur poids pour obtenir une juste revendication. Cette manifestation donc a rassemblé beaucoup de monde. Elle était malheureusement un peu éclipsée par l'hommage national rendu à Johnny Hallyday, je pense bien, hein, dans les médias nationaux. Mais ceci dit, elle s'est fait quand même entendre et je pense que c'est une chose à laquelle on peut souscrire.
Est-ce que l'Église a une parole officielle sur justement le rapprochement des familles, la dignité de l'homme? Est-ce que quelque chose est dit à ce sujet?
Sur la question des prisonniers Pays Basque, je ne crois pas qu'il y ait eu de prise de position officielle. Je crois qu'il faut quand même toujours rappeler, hein, que dans la mesure où des prisonniers sont considérés comme des terroristes, hein, et on sait bien qu'aujourd'hui ce mot-là a un écho particulier dans nos consciences avec tout ce qui se passe avec le terrorisme islamiste, ou de complicité avec une organisation terroriste, c'est sûr que la loi est la loi, hein, et les peines sont les peines. Maintenant, je le répète, le temps a passé, l'eau a coulé sous le pont, les peines ont déjà été longues, et je pense que les familles peuvent légitimement accueillir, désirer que leurs prisonniers soient rapprochés. Je crois d'ailleurs que c'est une décision qui doit être faite davantage au cas par cas, et comme ça a été fait d'ailleurs à plusieurs reprises, quand ils sont malades, quand ils sont qu'ils ont déjà purgé une longue peine, bon, ça paraît assez logique que les familles soient pas obligées de faire 600 km pour voir régulièrement les membres de leur famille.
de violents affrontements ont lieu en Terre Sainte suite à la décision du président Donald Trump de reconnaître donc Jérusalem comme capitale d'Israël. Quelle est la position de l'Église ? Le pape a condamné cette décision.
Alors le pape n'a pas condamné, il a dit qu'il était préoccupé. Il était tout à fait préoccupé par une telle prise de position. Il faut d'abord préciser que cette décision a déjà été entérinée par le Sénat depuis plusieurs décennies, que les différents gouvernements, par mesure de prudence, ont repoussé la mise en application effective de cette décision ou de cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les Sénats précédents. Trump a seulement, en fonction d'une promesse de campagne, pris la décision hâtive. On ne sait pas très bien pour satisfaire qui, peut-être de manière un peu électorale. Il est évident que l'Église ne peut pas être d'accord pour la reconnaissance officielle de Jérusalem comme capitale d'Israël. Jérusalem a un statut quand même très particulier, qui a d'ailleurs été statué par les organisations internationales comme l'ONU, étant la ville quand même des trois grandes, des lieux saints, des trois grandes religions. Alors c'est vrai que c'est d'abord la capitale d'Israël dans l'histoire du salut, mais c'est devenu aussi le lieu de la mort et de la résurrection du Christ, qui accomplit le salut annoncé par les prophètes. Et puis c'est devenu aussi un lieu saint pour l'islam. Donc c'est un lieu où les trois religions, les trois grandes religions monothéistes trouvent leur lieu saint. Et c'est la raison pour laquelle l'Église a toujours insisté pour qu'il y ait un statut très particulier pour cette ville de Jérusalem. Et donc le pape a dit sa préoccupation, et ça a été repris par Monsieur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, dans la foulée, de voir une telle décision qui peut en effet avoir provoqué un nouvel embrasement. C'est sûr que le président de la République, je crois, en recevant Monsieur Netanyahou hier, a condamné les violences en direction d'Israël de la part des Palestiniens, et en même temps il a demandé à Monsieur Netanyahou d'avoir des gestes forts en direction des Palestiniens pour que le processus de paix ne soit pas enrayé par cette décision qui d'ailleurs ne sera pas mise en application avant, je pense, plusieurs années.
Radio La Pour Dire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Ayet, du 3 au 8 novembre, vous étiez à Lourdes pour l'Assemblée plénière des évêques de France. Alors, avant d'en parler, on peut peut-être dire qu'il y a deux nouveaux évêques qui nous touchent, puisqu'il y en a un nouveau à Dax et puis un à Paris un petit peu plus loin. Donc, est-ce que vous vous réjouissez de ces nouvelles nominations ?
Je me réjouis toujours d'une nouvelle nomination épiscopale, surtout pour le diocèse des Rédax, d'abord parce que ça fait quand même quelques mois que ce diocèse est sans évêque titulaire. Il a été la vacance a été après la démission de Monsieur Gachinia, on sait dans quel contexte douloureux. Monseigneur Charrier a assumé la vacance comme administrateur apostolique, lui qui était évêque émérite, qui désirait sans doute retrouver sa tranquillité, je pense, mais on peut le remercier d'abord pour la disponibilité qui était de la sienne. Et puis je pense que pour le clergé et les fidèles, c'est une grande joie que le pape ait nommé un nouvel évêque qui sera donc installé le 17 décembre, et qui est Monseigneur Nicolas Souchu, qui a été ordonné évêque quelques semaines après moi.
Donc, vous le connaissez
ou... Donc je le connais bien, oui, forcément, parce qu'on se connaît, on a dû faire la même session des nouveaux évêques à Rome. Il était évêque auxiliaire de Rennes depuis son ordination, donc depuis presque 9 ans. Et nous sommes croisés pendant un an dans la commission épiscopale pour les mises ordonnées et les laïcs en mission ecclésiale. Donc je me réjouis de son arrivée à Eredax. Quant à l'archevêque de Paris, je le connais bien aussi parce que quand moi j'étais recteur de la maison de formation de la côte de Saint-Martin et que je rentrais voir mes parents à Paris entre Noël et le premier de l'an, j'allais dans la paroisse de mes parents, Saint-Louis-en-Lille, où il était vicaire. Jeune vicaire, si je puis dire, de 44 ans, puisque, comme vous savez, il est d'abord médecin et il est ordonné prêtre avec la quarantaine bien passée.
Monseigneur Ayet, comment expliquez-vous que ce soit un prêtre diocésain de Paris, finalement, qui soit évêque, archevêque de Paris aujourd'hui ? C'est un peu l'exception qui confirme la règle.
Pas à Paris. À Paris, c'est souvent comme ça. Vous vous rappelez que Lustiger était lui-même prêtre diocèse de Paris. 23 aussi. Donc la règle est assez bien respectée depuis quelques années. Oui, Monseigneur Petit est d'abord un médecin hein, qui a exercé à Colombes, il est né à Versailles. Il a choisi le diocèse de Paris, je ne sais plus pour quelle raison. Il rentre au séminaire de Paris. Il a été vicaire, aumônier, curé, puis vicaire général pendant 8 ans, je pense. Et donc repéré sans doute par Monseigneur 23. Et j'imagine qu'il n'est pas pour rien dans cette nomination. Il a dû le préparer. Il était évêque depuis 4 ans, hein, évêque auxiliaire. C'est un homme qui a 66 ans, donc une belle expérience, une belle maturité. Puis, c'est un homme qui vient pas du sérail ecclésiastique. Hein. Il a connu le monde, la vie. On pourrait dire qu'il vient de la société civile, entre guillemets. Et donc, en plus, c'est cette expérience de médecin, spécialité de bioéthique. Dans les débats sociétaux qui s'annoncent, bah, il aura une parole forcément crédible. Et je pense que le pape n'a pas dû être indifférent à cet état de médecin assez spécialisé dans les questions de bioéthique pour les débats qui s'annoncent.
Alors, du 3 au 8 novembre, vous étiez avec vos confrères évêques à Lourdes pour l'Assemblée plénière. Plusieurs sujets ont été abordés. Nous allons maintenant parler un peu de ce qui s'est dit dans cette Assemblée. Alors, commençons peut-être par le sujet des séminaires. Vous avez travaillé sur le nouveau texte, ce qu'on appelle une ratio, c'est ça ?
Voilà, ratio qui veut dire programme de formation hein, pour les séminaires, qui a été publié le 8 décembre 2016 par la Congrégation pour le clergé, qui est la congrégation compétente pour les séminaires, donc avec l'approbation évidemment du Saint-Père, et qui est un très beau texte, qui a plusieurs particularités d'ailleurs intéressantes. D'abord, c'est un texte qui donne les orientations pour les circonstances actuelles, pour la formation sacerdotale, en intégrant en gros les grandes convictions, les grandes intuitions de l'exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II, Pastores d'Abo Vobis, sur la formation justement sacerdotale dans les circonstances actuelles. Quelques particularités, c'est que ce texte intègre au programme de formation des séminaires, d'abord la question de la pastorale des vocations. Donc ça, c'est très important parce que c'est là que le bât blesse, comme vous le savez. On peut avoir des séminaires très bien huilés, avec une formation extrêmement sophistiquée, mais s'il n'y a personne dans les séminaires, ça pose quand même une question. Donc la pastorale des vocations est le premier chapitre de ce programme de formation. Donc ça, c'est assez intéressant pour souligner l'importance de l'appel à la vocation sacerdotale. Ensuite, une autre particularité, c'est que la propédeutique que nous connaissons nous bien depuis longtemps devient obligatoire dans l'Église universelle. Il faut savoir qu'en France, il y a encore actuellement 47% des séminaristes qui rentrent directement en première année sans être passés par une propédeutique. Ensuite, les deux cycles sont dénommés de manière nouvelle. C'est toujours cycle de philosophie et de théologie, mais cycle de philosophie et de formation du disciple. Pour insister sur le fait que la formation sacerdotale s'enracine d'abord dans la vocation baptismale et qu'avant d'être un prêtre, on doit être un homme et un chrétien, au minimum. Et enfin, le cycle de théologie qui s'appelle le cycle de configuration au Christ, où on insiste davantage sur ce que le sacrement va opérer en nous, en nous configurant au Christ, tête, pasteur, serviteur et époux de l'Église. Nouveauté aussi, une année dite de synthèse vocationnelle qui devient aussi obligatoire, mais que nous connaissions déjà nous, qui est ce qu'on appelle le stage diaconal, avec une insertion pastorale et une semaine par mois au séminaire de Toulouse pour tous les diacres de la région. Et enfin, la dernière chose importante de cette ratio, c'est qu'elle intègre aussi dans le programme de formation du séminaire, qui est davantage la formation dite initiale, la formation permanente, hein, qui doit s'enraciner dans la formation initiale, avec les mêmes accents, les mêmes caractéristiques, et en particulier la dimension intégrale de la formation qui intègre la dimension humaine, la dimension spirituelle, la dimension intellectuelle, la dimension pastorale de la formation des prêtres.
La question du nombre de séminaristes a été plus ou moins posée, je crois. Enfin, il y a eu un débat.
Alors, c'est-à-dire que devant la pénurie des vocations, le nombre toujours décroissant des séminaristes en France et le nombre important de séminaires et de maisons de formation, la question s'est posée de savoir s'il fallait déterminer un seuil au-dessous duquel on ne pouvait pas ouvrir un séminaire. Bon. C'est des questions qui n'ont pas été tranchées, qui, à mon avis, ne seront pas tranchées. Quand vous savez qu'à Bordeaux, il y a 7 séminaristes dans la maison actuellement, pour 6 diocèses, qu'à Lille, il y en a 10, c'est sûr qu'on ne va pas fermer Lille ni Bordeaux. Donc, je pense que, pour ma part, j'ai même exprimé cela au cours du débat, en disant que je pensais que ce n'était pas une bonne manière, d'abord, ce n'était pas un message d'espérance donné aux fidèles que de dire fermons des séminaires et réduisons le nombre des propédeutiques. Et je pense que c'est pas prendre les choses dans le bon sens. On va pas établir une carte scolaire dans laquelle nous savons bien que les jeunes ne rentreront pas. Et il faut vraiment rejoindre les jeunes tels qu'ils sont et pas leur demander, au moment où ils désirent entrer au séminaire, d'avoir déjà les capacités, les aptitudes requises au moment de l'ordination. Donc il faut laisser quand même une liberté qui est liée aussi à la mentalité de la jeunesse d'aujourd'hui. Même si, après, il y aura toute une formation pour les aider à objectiver leur vocation et être véritablement des serviteurs de l'Église. Et donc, j'ai posé cette question, et qui est un petit peu, évidemment, iconoclaste, mais il faut que nous posions aussi une vraie question. Pourquoi les jeunes qui veulent devenir prêtres aujourd'hui fuient parfois nos diocèses pour rejoindre des communautés, à commencer par la communauté Saint-Martin, qui de fait représente aujourd'hui un sixième des séminaristes français qui sont en France. Donc, questions qui sont évidemment chatouilleuses, mais importantes.
Alors, lors de cette assemblée des évêques, vous avez également parlé de la réforme des structures de la conférence des évêques. D'ailleurs, vous êtes dans un nouveau conseil, celui des jeunes, je crois.
Voilà, parce que tous les 6 ans, on doit changer. Donc, j'étais arrivé à ma 6e année à la Sémolem, et il m'a été demandé donc de changer. Alors, j'ai, comme on fait d'habitude, on propose 3 choix, et puis c'est le conseil permanent qui nous affecte.
C'était votre premier choix ?
Non, c'était pas le premier choix, mais je suis très heureux d'être dans ce conseil épiscopal pour la pastorale des enfants et des jeunes, et plus chargé d'accompagner les jeunes pros et toutes les initiatives qui sont un peu hors institution, comme les PLVTT, les routes chantantes, la route Saint-Martin, toutes des expériences qui naissent un peu en dehors des mouvements et des institutions habituelles.
Qu'on a d'ailleurs déjà dans notre diocèse.
Et qu'on a déjà dans notre diocèse, puis les VTT. Oui.
La question de la réforme des structures, beaucoup disent que c'est une grosse machine, la conférence des évêques de France, et qu'il faudrait peut-être un peu, si je reprends une expression qu'on avait utilisée pour l'éducation nationale, dégraisser le mammouth. Alors, qu'est-ce qui s'est dit ?
Je crois que c'est vrai que la question de la réforme des structures de la conférence des évêques de France est née du constat que nous n'avons plus suffisamment dans nos diocèses de prêtres disponibles pour entretenir un certain nombre de services nationaux et de commissions. Alors, c'est parti de là, mais la question n'est pas seulement une question de réduction d'effectifs et de dégraissage du mammouth, mais peut-être de recentrage de la mission de l'Église, et donc d'avoir une conférence épiscopale et des services et des structures qui soient davantage et qui colle davantage au cœur de cible de notre mission. Et c'est pourquoi il y a un principe source qui a été voté, avec d'autres principes qui en découlent, qui est que l'Église existe pour évangéliser. Alors voilà comment est-ce que ça doit prendre forme et chair dans l'organisation de notre conférence. Alors, c'est un travail qui commence. Bon, il y a une commission ad hoc. On a débattu dessus. À eux maintenant de continuer à travailler et à nous donner une feuille de route.
Autre sujet que vous avez évoqué, Monseigneur, à l'Assemblée des évêques de France début novembre, c'était le synode 2018 sur les jeunes. Alors, je crois qu'il y a eu un questionnaire adressé à tous les jeunes, toutes les pastorales des jeunes des diocèses. Quel a été ce retour ? Quels sont les points importants qu'on peut souligner ?
Alors, je dirais en quelques mots que le retour des questionnaires, envoyé effectivement aux acteurs de la pastorale des jeunes, mais aussi en ligne pour les jeunes eux-mêmes, jusqu'au 30 novembre d'ailleurs, ils pouvaient répondre en ligne, font ressortir un certain nombre de constantes. D'abord, il y a une chose, c'est que les jeunes qui ne sont pas rejoints par la pastorale des jeunes dans l'Église ne demandent rien à l'Église et n'attendent rien de l'Église. D'ailleurs, de manière générale, on note que cette génération, qui sont les 15-29 ans, je crois, ou 16-29 ans, cette génération qui a été ciblée, est quand même toujours dans une certaine défiance par rapport à toutes les institutions, y compris l'Église. Mais quand on voit aussi les campagnes médiatiques qui est autour de l'Église récemment, ça ne peut que accuser un petit peu cette attitude de fond. Cependant, on note dans ces questionnaires qu'il y a quatre désirs, on pourrait dire, qui ressortent des attentes de ces jeunes. Premier désir, un désir d'intériorité. Et on voit que l'expérience de Thésée, par exemple, est omniprésente dans les réponses aux questionnaires, comme un lieu où ils apprennent le silence et la prière en silence. Deuxième désir, et qui s'articule avec le troisième, c'est le désir de l'action avec le désir de la responsabilité. Donc c'est une génération qui veut agir, pas rester seulement dans les idées, et qui veut assumer des responsabilités dans l'Église et dans la société. Et on voit que là, c'est aussi, ça ressort aussi de l'expérience du scoutisme, qui est omniprésente aussi dans les réponses à ce questionnaire. Et enfin, un désir de vie communautaire. Et on voit bien se multiplier les colloques, tant entre les étudiants que les jeunes pros, les foyers d'étudiants, etc., qui se multiplient un peu partout, dans les grandes villes universitaires en particulier. Donc, ça nous oblige à être attentifs à ça. On voit qu'ils veulent aussi une Église accueillante à tous, et en même temps une Église qui est une parole à donner pour éclairer leurs questions les plus existentielles. Et une Église aussi qui soit décomplexée pour annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Oui, il y a des attentes qui sont d'ailleurs parfois assez contrastées et assez paradoxales, mais qui seront certainement utiles pour le secrétaire du synode pour établir ce fameux instrumentum laboris, document de travail pour le prochain synode.
Alors vous êtes intervenu au forum de la pastorale des jeunes de notre diocèse qui a eu lieu le 11 novembre. Est-ce que vous avez ressenti un peu les mêmes désirs? Alors c'était pas forcément des jeunes qui étaient présents, c'était les acteurs auprès des jeunes.
C'était les animateurs, oui.
Est-ce que vous avez recueilli des demandes, des désirs spécifiques?
Alors on n'a pas recueilli de désirs spécifiques parce que c'était pas le lieu. Je me suis contenté de leur donner un peu le compte-rendu de ce que la Conférence des évêques de France avait tiré de ces questionnaires. Et on avait surtout axé, je crois que la pastorale jeune avait surtout axé sur l'évangélisation par le numérique et l'évangélisation du numérique. Et donc on a fait venir un ancien jeune de l'aumônerie d'Arditeia qui se trouvait un spécialiste audiovisuel.
Amaru Cazeneuve.
Voilà, qui a travaillé pendant 10 ans à TF1 et qui a produit un certain nombre de petites vidéos pour annoncer l'Évangile de manière assez ludique et assez percutante.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port. Chaque fin d'année, c'est le moment de faire les comptes. Monseigneur, l'Assemblée générale de l'association diocésaine a eu lieu il y a quelques jours. Vous avez aussi publié les comptes dans la revue diocésaine Notre Église du mois de décembre. Alors, quel est le bilan des comptes du diocèse?
Le bilan est toujours négatif, si je puis dire. On a toujours une augmentation structurelle de la masse salariale, même si elle tente à se stabiliser. Et c'est surtout en 2017 que les effets s'en font ressentir. On a toujours un grand problème pour gérer l'immobilier et les constructions, autant au niveau du diocèse, qui vont maintenant s'apaiser après la construction du séminaire et de la bibliothèque, mais dans les paroisses, il y a toujours des nouveaux projets, nouveaux chantiers. Et donc on est obligé de réguler un peu tout ça. Donc c'est vrai que pour l'instant, étant donné que nos collectes n'augmentent pas et même diminuent, puisque le denier a diminué quand même de manière importante en 2016, même si je vois que pour 2017 c'est en train de remonter un peu quand même, donc ça fait qu'il y a un déficit d'exploitation assez important et qui nous oblige actuellement à compenser par en faisant appel à la trésorerie, mais ce qui ne pourra pas durer autant que les impôts, c'est le cas de le dire. Donc il y a des points d'attention extrêmement importants à tenir, comme nous l'avons dit à l'Assemblée générale de son diocésaine, et évidemment que nous mettons en place avec le Conseil diocésain des affaires économiques actuellement.
Concernant la baisse du denier, on sait qu'on essaye de rejoindre les plus jeunes générations. Est-ce que vous avez réussi depuis quelques années justement à toucher ces jeunes actifs qui ont plus de mal à donner, à s'intégrer à l'Église en donnant au denier du culte?
Alors, il y a en effet toute une étude qui a été faite au niveau national pour rejoindre davantage les plus jeunes, ce qui est une sensibilisation assez intéressante, mais qui ne donnera pas beaucoup d'effet. D'abord parce que les jeunes sont en pleine installation eux-mêmes et donc ne sont pas nécessairement les gens qui donnent le plus aux associations. Donc nous essayons surtout de rejoindre ceux qui ont entre 50 et 65 ans, qui sont bien installés, dont les enfants commencent à être installés aussi, et qui sont davantage susceptibles de donner aux associations caritatives, humanitaires et donc à l'Église. Donc c'est plutôt vers là que va actuellement la campagne de collecte de dons, du denier, en partenariat d'ailleurs, comme vous le savez, avec Bordeaux. Alors je ne sais pas si cette année on aura déjà des effets immédiats de ce partenariat qui semble mutualiser quand même nos campagnes, mais il se trouve que sans doute on a dans la conquête de nouveaux donateurs, car c'est cela qui est le plus difficile. La perte des donateurs habituels est très stable depuis 10 ans. Elle vient essentiellement du fait que les gens vieillissent, que ceux qui donnent habituellement sont plus vieux, qu'on a moins de pratiquants dans nos assemblées, il faut aussi noter ça, et donc nécessairement ceux qui donnent traditionnellement manquent à l'appel puisqu'ils disparaissent. C'est vraiment la conquête de nouveaux donateurs qui a posé quelques difficultés les 2 dernières années. Sans compter que l'an dernier, en 2016, la relance qui se fait généralement dans les 2 derniers mois de l'année, et qui est quand même très importante parce que c'est là que les gens donnent le plus, a été faite pour des questions de routeurs et de postes qui ont été défectueuses l'an dernier, très tard, et donc on n'a pas réussi à enrayer la diminution.
On espère que pour cette année, alors...
On espère, oui. De fait, je sais qu'il y a déjà une remontée, là, on est dans un meilleur niveau que l'an dernier à Paris Époque.
Le 8 décembre, vous avez lancé, Mgr Ayé, le parcours Cléophas. C'est un nouveau parcours de disciples missionnaires pour notre diocèse. On en avait parlé ici même lors de la précédente émission. Alors, combien de personnes vont participer à cette première promotion?
Alors on était parti sur une participation d'une 30aine de personnes pour ne pas trop commencer fort, justement pour que l'équipe d'accompagnement puisse se roder. Et puis finalement, il y a eu une telle demande qu'on est obligé d'aller jusqu'à 45. Bon, on était jusqu'à 47, finalement on a 45 participants. Donc c'est une très belle réponse, hein, et il y a un très beau travail qui a été accompli d'abord par le comité de pilotage, qui a préparé ça sous la direction de l'abbé François Biche, notre vicaire général, et puis finalement une petite équipe d'accompagnement qui s'est mise en place, avec comme responsable Catherine Marie Chassagne, qui fait partie de ces jeunes qui ont été assez actifs au moment des JMJ de 2011, dont certains sont au séminaire, d'autres se sont mariés et très engagés dans leur paroisse, et puis Catherine Marie, qui est dans ce monde catholique, et que j'ai chargé justement de la responsabilité de cette équipe. Avec comme prêtre accompagnateur l'abbé Nalis, l'abbé Don Maurice Franc, et puis autrement, il y a des intervenants divers et variés. Il y a Barbara Couget, qui est ma secrétaire, mais qui, en qualité de membre de la communauté de l'Emmanuel, fait partie de cette équipe. Marc Chaplard, qui est un recommençant de Saint-Pierre-du-Rhume, qui est venu par les parcours Alpha, mais qui a fait le CIFAC aussi. Donc il y a des membres aussi qui ont de cette équipe, qui ont fait le CIFAC, comme Laure Fontaine aussi, hein, qui est responsable de l'aumônerie des étudiants de Pau. Et donc de manière à bien articuler les choses.
Alors qu'est-ce qui s'est passé le 8 et le 9 décembre? C'était à Belloc.
Voilà, c'était à Urte, hein, et Belloc pour l'hébergement, parce qu'ils étaient trop nombreux pour être hébergés à Urte, mais ça se passait chez les bénédictines. Il s'est passé de très belles choses. Je crois qu'il y a eu un très bel engouement, un bel enthousiasme. Moi, j'étais très dans l'admiration de voir ce groupe de personnes qui s'étaient engagées. Donc ce sont des 24 heures qui commencent le vendredi soir et qui terminent le samedi soir, ce qui fait que ça permet de garder le week-end en famille. Très diversifié selon les lieux de provenance et les âges, mais une moyenne d'âge finalement assez basse grâce à un contingent de jeunes trentenaires qui viennent de la paroisse du Christ Sauveur en particulier, Et puis, ça n'excède rarement 60 ans. Je crois que la moyenne d'âge doit être 45, 50 ans
Il y a plus
maximum.
De Béarnais que de Basques, je crois.
Il y a plus de Béarnais que de Basques, effectivement. Il y a des paroisses qui ont répondu de manière très significative, puisque le Christ Sauveur a envoyé 12 personnes. La paroisse de Navarinx en a envoyé 10. La paroisse de Sainte-Marie du Hameau en a envoyé 3. Même, il y a même des paroissiens qui ont été envoyés par la paroisse de Haute-Ossau de la Reims. Donc tout ça veut dire que, oui, Pays Basque un petit peu moins, c'est vrai. Mais bon, je pense qu'ils veulent voir. Hein. Je connais les Basques, ils sont d'abord attentistes, ils regardent un peu comment ça se passe. Puis une fois qu'ils sont vus, ben, ils s'engagent jusqu'au bout. Donc au fond, c'est très bien, parce que ça permet de commencer avec ceux qui ont bien répondu, de fonder notre affaire. Et puis ensuite, je pense que ça fera boule de neige. Déjà, je sais que il y a quand même des paroissiens de la côte basque, hein, et même de Saint-Vincent-de-Paul, là, de Bayonne. Et on verra, hein, ce que ça va donner. Mais je pense que ce premier week-end a été extrêmement enthousiasmant pour tous.
Certains viennent de mouvements aussi, ont été envoyés par un mouvement, ou c'est seulement des paroisses?
Paroisse essentiellement, service de la catéchèse, donc la responsable diocésaine en fait partie de ce groupe, et aussi la pastorale des jeunes, mais pas de mouvement, cette fois-ci.
Alors, vous donnez rendez-vous à toutes ces personnes qui suivent le parcours Cléophas, mais aussi à tous les diocésains, le 6 mai, je crois.
Le 6 mai pour la journée diocésaine fête.
Déjà en parler.
Bien sûr, on peut déjà en parler, ce sera une journée sur laquelle on a pas mal, on a fait un brainstorming, comme on dit, avec le conseil pastoral diocésain le 2 décembre dernier sur diocèse en fête, qui ont eu des idées qui ont fusé et qui est très intéressante. On a décidé de faire ce diocèse en fête au cœur de Bayonne, donc cathédrale et cloître, en essayant de demander à la mairie de pouvoir sanctuariser un peu les rues adjacentes pour cette journée que nous voulons être une journée de fête, de partage d'expériences très diversifiées de nos paroisses, de nos communautés, de nos services, de nos mouvements, d'initiatives missionnaires diverses et variées qui n'ont pas besoin d'être des choses extraordinaires ou extraterrestres. Et donc à la fois, ça, le partage d'expériences au sein du cloître, et puis un parvis des gentils devant la cathédrale, sur le parvis de la cathédrale. Voilà, donc c'est en train de se monter avec l'Observatoire de la Mission qui va prendre les choses en main.
Sur le contenu de ce parcours Cléophas, c'est une formation qui dure 2 ans. Qu'est-ce qu'on va leur apprendre, entre guillemets? Est-ce que ça diffère par exemple de la TPA qui propose aussi des formations? Est-ce qu'il y a un diplôme à la fin?
Pas de diplôme, c'est plutôt... disons que c'est un parcours qui est centré pour former des disciples missionnaires sur la rencontre avec le Christ et la capacité d'en être le témoin. Pas forcément dans une mission particulière ou un service donné, mais à travers sa vie courante, quotidienne.
Donc famille. C'est pas de la théologie.
Alors on fait un peu de théologie parce qu'on faut rendre compte de sa foi. Évangéliser, comme dit Saint-Pierre, c'est rendre compte de l'espérance qui est en nous, pas à tous ceux qui nous en demandent raison. Donc ça suppose quand même un petit travail intellectuel, mais qui est fondé sur le Youcat. Le Youcat qui est un compendium du catéchisme de l'Église catholique qui a été donné à tous les jeunes des JMJ de 2011 par le pape Benoît XVI, qui est très pédagogique. Et donc il y a 4 parties, donc il y a 4 grandes journées dans cette première année. Donc il y a un intervenant qui donne une synthèse de chacune des parties, mais chaque partie est lue par les participants avant et peuvent de manière très interactive à l'aide du forum sur le site dédié au parcours Cléophas, hein, parcourscléophas64.org, il y a comme ça des questions-réponses qui fusent et qui permettent à l'intervenant de savoir où est-ce qu'il va aller lorsqu'il va présenter ça avec une manière assez interactive. Et je crois que ça répond à un vrai besoin à la fois de formation, mais de formation en vue d'être des témoins, des disciples missionnaires. Hein. Je note en passant que, comme je leur ai expliqué le soir même, pour leur dire la raison de ce parcours Cléophas, je suis revenu à ma lettre pastorale, que je leur ai d'ailleurs distribuée, parce que beaucoup ne l'avaient pas, et dans laquelle, en 2010, je demandais déjà que l'on fasse un programme de formation de disciples missionnaires. Et d'où est-ce que je tirais cette expression ? Avant que le pape la rende universelle dans son exhortation apostolique à la joie de l'Évangile en 2013, donc c'était 3 ans avant le pape, comme je l'aurais dit, vous voyez, le pape dit tout comme moi. Mais en fait, parce que...
Vous, c'était une expression de Benoît XVI, non, que vous repreniez ?
Non, c'est une expression du fameux document d'Aparecida en 2007, qui avait été présidé, c'est vrai, par Benoît XVI, mais dont le cardinal Bergoglio, qui était l'archevêque de Buenos Aires, était le rapporteur général. Et c'était le thème de ce texte qui m'avait beaucoup touché. Moi, j'étais en mission au Brésil avec le chemin néo-catéchuménal en août 2008, quelques semaines avant d'être nommé évêque ici, et à ma grande surprise d'ailleurs. Et donc, j'avais lu ce texte qui m'avait été donné là-bas en portugais, et j'avais été extrêmement touché. Cette dynamique des missionnaires, de la mission, et c'était le fond même de ce premier chapitre de ma lettre pastorale. Donc, je leur ai redit ça. Et je crois en leur disant qu'on est centré sur la rencontre avec le Christ à l'aide d'un compagnonnage du Christ lui-même, comme les disciples d'Emmaüs, Cléophas étant l'un des deux disciples d'Emmaüs qui ont été rejoints par le Christ sur le chemin, et à travers à la fois les intervenants sur le plan de le contenu de la foi, mais l'accompagnement spirituel, la lectio divina, les prêtres qui peuvent les aider, les membres de l'équipe qui vont aider tout au long de ce parcours, les participants au parcours, Cléophas, à relire leur histoire, leur témoignage, pour être capable de le formuler et de le donner dans la vie.
À l'occasion des fêtes de Noël, Thomas Hospital, organiste talentueux originaire d'Ayer, fait un beau cadeau à Radio Lapourdi pour son 25e anniversaire. Il nous offre un concert d'orgue le samedi 30 décembre, l'après-midi à 16h, en l'église Saint-Vincent de Cibourg. Œuvre classique et improvisation sur des Noëls d'ici et d'ailleurs. En participant à ce concert, vous soutiendrez financièrement Radio Lapourdi. Rendez-vous en l'église Saint-Vincent de Cibourg pour ce concert avec Thomas Hospital le samedi 30 décembre à 16h.
Monseigneur Ayer, nous terminons cette émission avec vous en parlant des événements diocésains tout juste passés, notamment la journée des sixièmes qui a eu lieu à Pau le 25 novembre dernier. Vous étiez présent à cette journée où il a fait un peu froid, je crois, mais où beaucoup de jeunes de sixièmes étaient présents pour découvrir la sainteté.
Oui, un peu plus de 600. Et donc, ce sont des journées maintenant bien rodées, organisées par le service de la catéchèse, où il y a 4 ateliers. Et donc, les jeunes, par groupe de 150 à peu près, avec leurs animateurs, vont d'atelier en atelier, qui commence par un petit temps de louange et de présentation des groupes, à Saint-Dominique dans l'Agora, hein, ce qui est tout à fait adapté, et puis qui se termine par un petit temps de prière, de recueillement, d'adoration eucharistique, là, dans cette même Agora. Et moi, j'animais donc l'atelier témoignage. Donc, on me demande chaque année de faire le petit témoignage de ma vocation que j'ai eu à 12 ans au moment de ma profession de foi. Donc, ça s'applique.
Ça correspond à leur âge.
À ces jeunes qui sont là en préparation de la profession de foi. Et puis ensuite, c'est un dialogue interactif avec ces jeunes qui ont plein de questions. Et on se rend compte qu'il y a des moments où... Alors, ça va de la question, qu'est-ce que vous portez sur la tête, la calotte, qu'est-ce que c'est, quand est-ce que vous êtes devenu évêque, pourquoi, est-ce que c'est dur d'être évêque, et puis toutes les questions qui peuvent fuser, pourquoi les filles ne peuvent pas être prêtres, etc. etc.
Enfin, voilà. Vous ne vous lassez jamais de répondre, parce que c'est un peu toujours les mêmes questions, même dans les visites pastorales.
Pas forcément les mêmes, c'est ça qui est assez curieux, parce que c'est toujours formé de manière différente. Et puis, selon les groupes, ce n'est pas toujours les mêmes questions qui viennent. Et donc, je ne me lasse pas parce que c'est toujours passionnant de répondre aux questions de ces jeunes qui, en plus, ont vraiment plein de questions à poser. Quoi. Donc,
ils ne sont pas trop intimidés.
Pas du tout, non. Mais ils sont très attentifs. C'est ça que j'étais très frappé. Un groupe de 150, ils ne sont pas turbulents et ils sont dedans. Quoi. Donc, pour moi, c'est un peu éreintant au bout de la fin de la journée parce que je répète 4 fois quand même mon même témoignage. Mais le groupe est toujours différent et donc je ne me lasse pas de ça.
Le 26 novembre, à la cathédrale de Bayonne, vous avez ordonné 2 diacres en vue du sacerdoce. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et puis nous parler un peu à cette occasion du séminaire? Combien y a-t-il de jeunes actuellement au séminaire?
Alors actuellement, il y a 27 jeunes qui se discernent ou qui se préparent à devenir prêtres pour le diocèse. Donc 2 propédeutes. Parmi les 27, il y en a qui sont en stage, diaconal ou intercycle. J'en ai un aussi qui est à Rome, hein, au séminaire français. Et donc les deux diacres ont été ordonnés. Alors évidemment, ils viennent un petit peu de d'ailleurs. Hein. Le premier, c'est Vincent Marie Venne, qui est le fils de l'ancien responsable de la communication de Lourdes, François Venne, qui est bien connu, qui était très lié au père Jean-Jacques Courtane, qui était son curé longtemps, et lui est de Pontac d'ailleurs, hein, Jean-Jacques Courtane. Voilà, lui, il avait commencé l'aventure à Marseille, où il avait fait ses études, où il travaillait à l'époque, dans la cuisine, comme cuisinier de restaurant. Il avait rencontré la fraternité des Saints Apôtres, hein, du père Michel-Marie Zanetti-Zorkin, et donc il a commencé cette aventure pendant 2 ans, pas plus. Et ensuite, il l'a quitté, voilà, il s'est trouvé qu'il est venu me rencontrer, je le connaissais déjà un petit peu par Marseille, et du coup, je l'ai envoyé à Rome, au séminaire Sede Sapientiae, pour que le discernement soit extérieur au diocèse, et à moi en particulier. Et donc, ben, j'étais très heureux de pouvoir l'ordonner diacre pour le service du diocèse, et lui est en stage pastoral à Andaille, hein, dans la paroisse de Notre-Dame de la Bidassoa. Le deuxième, c'est Vianney Paquet, qui est un Toulonnais, lui, d'origine, que j'ai même connu à Toulon lorsque j'étais vicaire général. Je logeais dans la paroisse où sa famille pratiquait. Et lui, il est un des premiers des Saints Apôtres aussi. Il était rentré avec Vincent Marie, d'ailleurs. Mais il est resté jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce que la communauté soit dissoute. Et à ce moment-là, comme certains s'étaient tournés vers le diocèse, il s'est tourné vers le diocèse. D'ailleurs, il devait venir en tant que Fraternité des Saints Apôtres au départ, et puis elle était dissoute au moment où il arrivait. Et donc, ben, il a pris le temps du discernement pendant un peu plus d'un an pour voir s'il allait s'incardiner dans le diocèse de Toulon, de Bayonne. Et donc, au bout d'un an et demi, étant donné son stage à la cathédrale, à la Maison Samuel, au Collège Notre-Dame, la rencontre avec les autres séminaristes, les prêtres du diocèse, ben, il s'est senti bien ici. Et donc, je l'ai donc ordonné diacre pour le diocèse de Bayonne.
Donc, tous ces jeunes de la Fraternité des Saints Apôtres qui sont venus ici, ils vont être prêtres diocésains du diocèse de
Bayonne. Ils
seront
prêtres diocésains, oui. Ceux qui seront appelés.
Parce qu'au départ, leur vocation était plus d'une communauté.
Une fraternité. Oui, leur désir, c'était de vivre le sacerdoce en fraternité. Ceci dit, c'est quand même un petit peu la perspective que nous avons au séminaire de Bayonne, que d'aider nos séminaristes à entrevoir, envisager de vivre la mission demain, qui sera bien différente de celle de leurs aînés, étant le nombre qu'ils seront, dans des petites fraternités, qui auront d'ailleurs plusieurs, ce sera géométrie variable, ça pourrait être des fraternités de curés qui se rencontreront de temps en temps, ou des fraternités qui vont sous le même toit, avec une charte particulière, bon, mais ce seront des prêtres diocésains, mais qui pourront vivre une certaine fraternité dans la mission.
Le 2 décembre, c'était la réunion du conseil pastoral diocésain, alors quel a été un peu l'ordre du jour de cette rencontre?
L'ordre du jour, je leur ai d'abord parlé de l'actualité du diocèse, parce qu'eux, ils étaient un petit peu décalés par rapport au conseil présbytéral, par rapport à tout ce qui s'est passé l'an dernier, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements, pas mal de débats, etc. Et donc, c'était intéressant qu'ils sachent où on en était au niveau des prêtres, du conseil présbytéral. Et donc eux-mêmes, ils ont donné un peu leur avis en disant, voilà, maintenant on avance. Ça leur semblait très important de ne pas faire arrêt sur image. Et ensuite, on a beaucoup travaillé, je vous ai dit tout à l'heure, par un brainstorming assez fécond sur le diocèse en fait.
Donc on en est où justement de cette fronde des prêtres de l'an dernier? Il y a eu des retours, des
conseils? Comme vous le savez, il y a eu quand même tout un débat au niveau des réunions de doyennés. Il y a eu une rencontre du conseil présbytéral qui lui a été consacrée. Et après les retours de tout ça, quand j'ai demandé avec le bureau du conseil au conseil présbytéral qu'est-ce qu'on faisait pour avancer sur tel point, ils m'ont répondu. Je crois que maintenant on a entendu les choses, il y a des choses qui ont été mises en place, ne serait-ce que les commissions vie ministère des prêtres et finances qui sont très actives au sein de notre conseil présbytéral, qui participent pleinement à l'élaboration d'un ensemble de dossiers et de décisions. Et donc le conseil présbytéral a souhaité qu'on avance maintenant et qu'on avait pris acte. Moi je crois que j'ai montré aussi avoir pris acte de tout ça, en particulier à la messe chrismale. Et donc je crois, pouvoir dire que les choses sont plutôt apaisées. Il n'y a pas ni de vainqueur ni de vaincu, bien entendu. Hein. Il y a eu un débat. Je crois qu'il a été utile. Et donc, avec le recul, ben, je me rends compte que les choses avancent. Et je m'en réjouis.
On termine, Monseigneur, avec une rencontre que vous avez faite avec les mères de famille. Alors, c'était une première avec vous, organisée par la pastorale de la famille. Vous avez rencontré des mères de famille à Biarritz et à Pau.
C'est ça, oui. C'était très, très sympathique. Je pense que c'était une très bonne initiative qui a été saluée par toutes ces mamans qui étaient là. C'était surtout des jeunes mamans, mais il y avait aussi des mamans d'âge moyen, puis il y avait même des grands-mères. Et ça a été bien des deux côtés. À Biarritz, il y avait entre 30 et 40, on va dire, entre le matin et l'après-midi, mamans qui sont venues. Et puis à Pau, ça s'est organisé de manière un petit peu différente, mais il y avait une quarantaine aussi. Il y avait deux mamans qui avaient pris ça en main de manière tout à fait efficace. Et ça commençait davantage par des échanges sur un texte de Amoris Laetitia, du pape François, avec quelques questions sur lesquelles ils ont échangé. Et après, ils m'ont demandé d'intervenir à partir de tout ça et de quelques questions qu'ils m'ont posées directement. Et le thème était axé pour moi sur la dignité de la femme, en fait. Hein, et je suis parti de cette magnifique lettre apostolique de Saint Jean-Paul II, qui date de 88, et qui s'appelle « Mulieris dignitatem », qui est une lettre sur la dignité et la vocation de la femme. Et donc je pense que c'était aussi pour montrer que la dignité de la femme s'accomplit dans la maternité, même si parfois cette maternité est blessée, et même si certaines femmes n'arrivent pas à parvenir à la maternité, mais elles sont mères par identité, et elles peuvent avoir cette fécondité maternelle d'une autre manière que par la maternité physique, ne serait-ce que la femme qui se voue à la virginité consacrée et qui n'en est pas moins mère pour autant.
Monseigneur Haillé, vous publierez comme chaque année à l'occasion de Noël votre message. Où serez-vous à Noël et quel est un peu votre calendrier, j'allais dire, des fêtes de fin d'année?
Alors donc, je serai à la messe de minuit à la cathédrale.
De Bayonne. Nous avons trois cathédrales dans le diocèse.
Oui, comme chaque année. Je ne vais pas trop m'éloigner le jour de Noël parce que j'aurai mon vieux père qui sera avec moi pour Noël, étant donné qu'il est un peu maintenant dans une grande solitude, même si j'ai d'autres frères et sœurs, mais bon, il voulait venir à Bayonne pour Noël, donc on va aller le chercher. Et puis donc j'irai le jour de Noël à Saint-Léon d'Anglette, et puis le jour de l'Épiphanie, qui est le 8 janvier, je serai évidemment au refuge pour la fête des jubilaires des servantes de Marie.
Juste avant Noël, vous allez visiter les prisons, comme chaque année?
Oui, j'irai dire célébrer la messe à la maison d'arrêt de Bayonne. Je crois que c'est le 20 décembre. Et j'irai, je crois que c'est le 22, à Pau, pour le quartier des hommes et le quartier des femmes.
Les vœux pour le clergé, vous avez déjà fixé la date?
Oui, bien sûr. Oui, c'est le 4 janvier, je crois, de mémoire.
À Arthès, en général. Ah, ou à Salis, peut-être.
C'est à Salis de Béarn. Voilà, Salis de Béarn, qui est maintenant le lieu que nous avons choisi. Avec,
c'est plus chaud.
Voilà, on y célèbre la messe, ensemble, au début de l'année. J'adresse des vœux au clergé, pendant un petit moment. Et puis ensuite, on a un beau repas de fête, ensemble.
Très bonne fête de Noël, Monseigneur Haillé, ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio Présence et de Radio La Pourdie. Et à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Shema Israël. Audi Israël. Écoute Israël. Ensun Israël. Escoute Israël.
Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.